imaginez un instant un pays qui est traversé par plus de 3500 fleuves et rivières.
C'est énorme.
Ouais, c'est colossal. Un pays bordé par 800 km de côtes océaniques et littéralement pilonné par une pluviométrie qui est parmi les plus intenses de tout le continent africain.
L'eau y est vraiment partout.
Exactement. Elle définit même le paysage. Et pourtant, ce même pays vient de déclarer un état d'urgence hydrique national.
Ah ouais, le contraste est saisissant.
Parce que ses robinets sont désespérément à sec.
C'est un véritable choc frontal entre la géographie brute et la réalité matérielle, en fait. Disposer de réserves d'eau douce colossales à l'état naturel, c'est une chose, mais cette abondance ne se téléporte pas par magie dans les canalisations des habitations, quoi.
Très bien. Décortiquons un peu tout ça. L'analyse d'aujourd'hui s'appuie sur une enquête vraiment minutieuse. Elle s'intitule « Gabon. Pourquoi un pays aux 3500 cours d'eau manque-t-il d'eau potable ?»
Un titre qui pose d'emblée le paradoxe.
Tout à fait. C'est un article rédigé par Félicité Amariara, Vincent, qui est journaliste indépendante et fondatrice de Radio Tam Tam Africa.
Une source très riche, pour le coup.
Et notre mission, au cours de cette analyse, c'est de comprendre ce gigantesque fossé entre un don de la nature et l'accès à un service public vital. On va vraiment plonger dans les rouages invisibles qui transforment un fleuve sauvage en eau potable au robinet.
Et le terme de rouage est parfait parce que l'ingénierie est vraiment la clé de voûte de cet article de Radio Tam Tam Africa.
Ouais.
La source nous force à regarder au-delà de la surface des fleuves, vous voyez, pour comprendre les mécanismes industriels et politiques qui sont derrière tout ça.
Avant de comprendre pourquoi ça coince à Libreville, il faut d'abord mesurer l'ampleur de cette richesse hydrique brute. Les chiffres, ils donnent un peu le tournis.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Quand on parle de 3500 rivières, d'un bassin versant immense comme celui de l'Ougoué et de précipitations quasi constantes...
On ne décrit pas juste un pays qui a un peu d'eau, en effet.
Voilà, on décrit un véritable labyrinthe aquatique à ciel ouvert. L'eau brute tombe du ciel, elle sature les sols, elle traverse les forêts.
La géographie du Gabon offre un environnement équatorial où le déficit hydrique naturel n'existe pratiquement pas.
C'est l'incarnation de l'abondance.
C'est ça. Mais cette profusion, elle crée ce qu'on pourrait appeler un piège cognitif.
C'est-à-dire
Une forme d'illusion de l'abondance. On confond instinctivement la présence d'une ressource brute avec sa disponibilité pour la consommation humaine.
J'ai lu ces chiffres en préparant l'émission et une image m'a tout de suite frappé.
Je vous écoute.
C'est un peu comme mourir de soif alors qu'on est enfermé à l'intérieur d'un immense supermarché.
Ah oui, je vois l'idée.
Les palettes de bouteilles d'eau sont empilées jusqu'au plafond, la réserve déborde de partout, mais on est planté au milieu du rayon sans pouvoir boire une seule goutte.
Parce que tout est verrouillé.
Exactement. C'est comme si toutes les bouteilles étaient scellées dans des coffres forts et qu'on n'avait pas la combinaison. L'eau est là, elle coule sous les yeux des habitants, mais elle est totalement inutilisable en l'état.
Ce qui est fascinant ici, c'est que votre analogie est très juste. Le problème de ce supermarché géant, pour filer la métaphore, c'est que l'eau naturelle d'un fleuve équatorial n'est pas du tout un produit fini.
Elle est brute, quoi.
Ouais. Elle est chargée de sédiments, de boue, de micro-organismes, de débris végétaux.
Donc on ne peut pas juste mettre un tuyau dedans.
Ah non, surtout pas. La combinaison du coffre-fort dont vous parliez, ce sont en réalité des milliards d'investissements dans des infrastructures physiques complexes.
Et c'est précisément là que la machine s'enraye.
Exactement.
Ce qui soulève une contradiction assez intéressante dans l'actualité récente. L'article mentionne que le pays a subi une baisse des précipitations dans plusieurs régions ces derniers temps.
Oui, c'est le phénomène météorologique du moment.
Et la conséquence mécanique, c'est que le niveau des rivières qui alimentent les stations de pompage a diminué. Donc, moins d'eau dans la rivière, moins d'eau pompée. C'est en gros l'explication officielle qui a pas mal circulé.
Et dans l'absolu, la mécanique des fluides de base valide ce point.
Ah bon ?
Oui, parce que les stations de captage sont conçues pour opérer à un certain niveau d'immersion.
D'accord, il faut que les pompes soient bien sous l'eau.
Voilà, et si le niveau de l'eau baisse de manière trop significative, les pompes commencent à aspirer de l'air, ce qui provoque un phénomène physique redoutable qu'on appelle la cavitation.
La cavitation.
Oui, ça crée des bulles de vapeur qui implosent et détruisent littéralement le métal. Les hélices s'abîment, le rendement chute de façon spectaculaire.
Et j'imagine que ça remonte aussi de la saleté.
Exactement. Parfois, les pompes finissent par aspirer la vase du fond, ce qui obstruit complètement les filtres primaires de la station.
Ok, je veux bien l'entendre. C'est très clair sur le plan technique, mais je vais quand même me faire l'avocat du diable une seconde.
Allez-y.
Si on possède un réseau de 3500 cours d'eau, Une simple baisse temporaire des pluies ne devrait pas suffire à mettre la capitale de tout un pays à sec, si. C'est la bonne question à se poser.
Je veux dire, on ne parle pas d'une zone désertique qui dépendrait d'un seul oued asséché. Si on blâme uniquement la météo, on sous-entend que, si la pluie revient demain, le problème est réglé.
Et c'est là qu'on se trompe. Si l'on relie cela à la situation globale, les spécialistes consultés dans l'article de Radio Tam Tam Africa balaient justement cette excuse purement météorologique.
Donc, la météo n'est pas le vrai coupable? Non. La faible pluviométrie, c'est juste un test d'effort. Un révélateur brutal de la situation.
Un symptôme, en gros.
Imaginez une poutre de pont qui est fissurée et rouillée depuis, disons, 30 ans.
Ok.
Un jour, un camion un peu plus lourd que d'habitude passe dessus et, boum, le pont s'effondre. Est-ce que le camion est le vrai coupable?
Ah, je vois. Non, bien sûr que non. Le pont allait tomber de toute façon.
Exactement. Le camion n'est que le facteur déclenchant. La baisse des pluies agit de la même manière sur le réseau d'eau gabonais. Elle met violemment en lumière une vétusté structurelle qui est assez alarmante.
Donc, en plongeant dans l'anatomie de cette crise, on quitte finalement le domaine de la météo pour entrer dans la réalité brutale des tuyaux, de la pression et du métal rouillé.
C'est tout à fait ça. On parle d'infrastructure physique.
Le diagnostic de Félicité Amenaya Ravissant, c'est vraiment sans appel là-dessus. Une grande partie des installations, que ce soit les stations de traitement ou les conduites souterraines, ça date de plusieurs décennies.
Et le problème, en matière d'ingénierie de l'eau, c'est qu'un réseau qui n'est pas massivement renouvelé, au bout de 30 ou 40 ans, ça devient une passoire géante.
Ouais. L'eau, ça creuse tout.
L'eau exerce une force constante, en fait. Il y a une usure mécanique avec la pression, mais aussi chimique sur les matériaux.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant.
Ah.
Parce que j'ai essayé de visualiser ce réseau vieillissant, et ça m'a fait penser à l'informatique.
À l'informatique, waouh, comment ça?
C'est comme essayer de faire tourner le tout dernier jeu vidéo ultra gourmand en 3D sur un ordinateur qui est vieux de 20 ans.
Ah oui, très bonne image.
Le matériel physique ne peut tout simplement pas supporter la demande moderne. Ça saccade, ça chanfe, et au final ça plante.
La carte mère crame, oui. Et pour filer votre autre métaphore, celle du début, c'est aussi très similaire au système circulatoire humain.
C'est-à-dire?
Les artères.
Voilà. L'abondance d'eau, c'est le volume de sang disponible. Mais si le cœur, qui représente ici nos stations de pompage, est fatigué et que les artères, les fameuses canalisations, sont fragiles et criblées de fuites...
Le sang n'arrivera jamais au bout des doigts.
C'est exactement ça. Peu importe la quantité de sang disponible au départ, sans une pression adéquate, les extrémités du corps ne sont pas irriguées.
Et j'imagine que les pertes d'eau dans le sol doivent être massives. Absolument. L'analogie du système circulatoire illustre parfaitement ce qu'on appelle les pertes de charge. Quand une artère principale fuit, on perd du liquide, oui, mais on perd surtout la pression.
Et sans pression, l'eau ne monte pas dans les immeubles.
Voilà. Sans une étanchéité parfaite, des kilomètres de tuyaux souterrains, toute l'énergie cinétique du système s'évapore littéralement dans le sol.
Ça fait réfléchir. D'ailleurs, en relisant l'article, un autre aspect m'a particulièrement frappé. On a souvent l'impression que capter l'eau, c'est le plus dur. Mais c'est juste le tout premier maillon de la chaîne, non?
Oh oui, ce n'est qu'une infime fraction de la bataille. L'illusion de l'abondance, encore elle, nous fait oublier que transformer cette eau sauvage en eau potable, ça exige de franchir 5 étapes technologiques cruciales.
5 étapes?
Oui, et elles sont successives. Si un seul maillon cède, l'eau n'arrive jamais chez les gens.
Décrivez-nous un peu ce parcours du combattant de la goutte d'eau, alors.
C'est une chaîne de traitement d'une complexité redoutable, surtout sous un climat tropical. La première étape, c'est le captage. C'est notre fameux cœur qui aspire l'eau brute du fleuve.
D'accord. L'eau rentre dans le système. Mais elle est imbuvable.
Complètement. D'où la deuxième étape, qui est la plus lourde, le traitement aux normes sanitaires. Il faut utiliser des coagulants chimiques pour faire tomber les particules en suspension.
Donc séparer la boue de l'eau claire, quoi.
C'est ça. Ensuite, il faut filtrer tout ça et surtout désinfecter à grande échelle, souvent au chlore, pour éradiquer toutes les bactéries pathogènes.
Ce qui exige d'avoir de véritables usines chimiques qui tournent 24 heures sur 24.
Des usines entières, ouais. Avec des pièces de rechange disponibles, des réactifs chimiques qu'il faut souvent importer et une maintenance de très haute précision.
Et là, l'eau est potable, mais on n'en est qu'à la deuxième étape. Sur 5.
Exactement. Ensuite, il faut la stocker.
La troisième étape.
Oui. L'eau propre doit être envoyée dans de gigantesques châteaux d'eau. C'est l'étape cruciale de la régulation.
Parce que les gens ne consomment pas l'eau de la même manière toute la journée.
Bah oui, la demande varie énormément entre, disons, 3 heures du matin où tout le monde dort et 8 heures du matin où tout le monde prend sa douche.
Il faut un tampon.
Le stockage en hauteur, ça utilise simplement la gravité pour lisser ces pics de demande sans faire exploser les pompes. Ensuite, la quatrième étape, c'est le transport sur de très longues distances via des conduites maîtresses.
Les fameuses grandes artères. Qu'une pression constante devient vraiment une question de vie ou de mort sanitaire.
Absolument.
Parce que j'ai cru comprendre que s'il n'y a plus de pression dans les tuyaux, le danger n'est pas seulement de ne pas avoir d'eau pour se laver. Le danger vient du tuyau lui-même.
Vous touchez du doigt le plus grand risque de ces pannes. Si la pression tombe à zéro dans une canalisation souterraine qui est déjà fissurée, l'effet s'inverse.
Comment ça, l'effet s'inverse ?
Au lieu de pousser l'eau propre vers l'extérieur par les micro-fissures, le tuyau se met à agir comme un aspirateur. Il va littéralement aspirer les eaux usées ou les polluants présents dans le sol environnant vers l'intérieur de la canalisation.
Waouh ! Donc le réseau d'eau potable aspire la saleté.
Et quand les pompes redémarrent et que la pression revient, cette eau contaminée est propulsée directement dans les robinets des habitants. Maintenir la pression, ce n'est donc pas qu'une question de confort pour la douche.
C'est le rempart sanitaire.
C'est le rempart absolu contre les épidémies urbaines, oui.
Mais j'imagine que cette usure mécanique n'explique pas tout. Une canalisation un peu vieille et rouillée peut encore tenir le coup si la demande au bout de la ligne reste stable.
C'est vrai.
Le vrai coup de grâce, c'est ce qui se passe au-dessus de ces tuyaux, non ?
Vous voulez dire en surface ?
Oui, l'évolution de la ville elle-même. L'article de Radio Tam Tam Africa pointe du doigt un multiplicateur de crise majeure, le choc démographique à Libreville.
Ah bien sûr, c'est le facteur aggravant par excellence. La croissance urbaine a été fulgurante ces 20 dernières années.
La population a explosé.
Libreville s'est étendue à une vitesse folle. De nouveaux quartiers entiers sont sortis de terre, repoussant les limites géographiques de la ville, bien, bien au-delà de ce qui avait été planifié à l'époque où les canalisations historiques ont été posées.
Et ça, c'est implacable. C'est un principe géométrique de base. Étendre un réseau de distribution de manière linéaire, juste en ajoutant des bouts de tuyaux, pour couvrir une surface urbaine qui, elle, s'étend de manière exponentielle, ça demande une quantité d'énergie colossale.
Ça ne tient pas physiquement.
Si on branche des milliers de nouveaux logements sur des artères qui étaient conçues pour une population trois fois moindre, on exige des pompes existantes qu'elles accomplissent un miracle.
Et les pompes, n'aiment pas les miracles. Le système est poussé bien au-delà de sa zone de rupture. Les moteurs des stations surchauffent en essayant de maintenir la pression sur des distances qui sont devenues beaucoup trop longues.
À travers des tuyaux qui, en plus, fuient de partout.
C'est une spirale de dégradation totale. L'augmentation de la population ne fait pas qu'ajouter de nouveaux consommateurs au bout du robinet.
Elle modifie la physique de tout le réseau.
Elle modifie la dynamique de l'ensemble du réseau, oui. La demande tire trop fort sur une offre qui est techniquement bloquée.
Face à un tel effondrement du système, on comprend que le gouvernement se soit retrouvé au pied du mur. Ignorer des robinets à sec à l'échelle d'une capitale entière, ce n'est plus une option tenable.
Surtout pas politiquement ou socialement, non.
Ce qui a forcé, du coup, la déclaration de cette fameuse état d'urgence hydrique nationale. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? L'article détaille un plan d'action assez massif.
Déclarer l'état d'urgence, ce n'est pas qu'un outil administratif. C'est d'abord un aveu très clair de la gravité de la situation. Le but affiché par les autorités, c'est d'accélérer drastiquement la modernisation des réseaux.
Il faut tout réparer vite.
Et renforcer les capacités de production en construisant de nouvelles stations de pompage et de traitement pour enfin sécuriser l'approvisionnement de la ville.
Mais concrètement, ça veut dire quoi sur le terrain ?
Ça implique des chantiers colossaux. Il faut ouvrir des tranchées dans toute la ville, remplacer des kilomètres et des kilomètres de canalisations pourries et installer des pompes de nouvelle génération. C'est un travail titanesque.
Et c'est là qu'on réalise les enjeux. Quand on vit dans un pays au climat tempéré, qu'on a l'habitude que tout fonctionne, une coupure d'eau de quelques heures, c'est juste un petit désagrément.
On râle parce qu'on ne peut pas prendre sa douche.
Voilà. Mais dans un environnement tropical densément peuplé, une pénurie chronique d'eau potable, ça déclenche une réaction en chaîne dévastatrice. L'eau n'est pas juste un bien de consommation courante.
Non, c'est la fondation même de la société civile.
La source insiste lourdement sur l'impact sanitaire et économique.
La santé publique est la première touchée, c'est évident. Sans eau, courante, potable, la population n'a pas le choix. Elle est forcée de se tourner vers des sources alternatives.
Des puits creusés à la va-vite ou de l'eau de pluie mal stockée.
Exactement. Et cette eau n'est pas traitée. Ou alors, elle est stockée dans des conditions d'hygiène précaires. C'est la porte grande ouverte aux maladies hydriques redoutables.
Comme le choléra.
Le choléra, la fièvre typhoïde et les diarrhées aiguës. Des maladies qui, malheureusement, frappent particulièrement et très durement les enfants.
L'article mentionne aussi explicitement la situation dans les hôpitaux et les écoles. C'est vraiment glaçant d'imaginer un hôpital essayant de fonctionner sans aucune pression d'eau.
C'est un cauchemar logistique et sanitaire.
Je veux dire, la stérilisation des instruments chirurgicaux dans les autoclaves, ça nécessite de l'eau. Les chirurgiens doivent se laver les mains avant d'opérer, c'est la base. Sans eau, les protocoles d'hygiène les plus élémentaires s'effondrent instantanément.
Et dans les écoles, c'est la même dynamique tragique. L'absence d'eau courante dans les sanitaires transforme un lieu d'éducation en un véritable incubateur à bactéries.
L'impact ne s'arrête pas à la santé d'ailleurs, c'est l'économie entière qui suffoque.
Absolument. L'industrie manufacturière, l'agroalimentaire, le secteur de la construction, tous ces domaines reposent sur des volumes d'eau considérables pour fonctionner.
Quand une usine doit arrêter ses chaînes de production juste parce que la pression du réseau municipal est insuffisante, c'est la croissance économique du pays qui est directement amputée.
Sans compter l'impact humain quotidien. Le temps que les citoyens passent, et ce sont souvent les femmes et les enfants qui s'en chargent, à chercher de l'eau, à la transporter dans des bidons lourds, puis à la faire bouillir à la maison.
Ce sont des heures perdues.
Ce sont des millions d'heures soustraites à l'éducation, au travail productif, ou même juste au repos. C'est un frein immense au développement.
Cette paralysie globale nous amène d'ailleurs à la conclusion, un peu philosophique et politique, de l'analyse de Radio Tam Tam Africa. Ce qui se joue aujourd'hui au Gabon est l'illustration parfaite de ce que la journaliste qualifie de « grand paradoxe africain ».
Cela soulève une question importante, en effet.
Posséder d'immenses ressources naturelles dans son sous-sol ou sur son territoire n'offre, en fin de compte, aucune garantie de service à la population.
C'est un changement de paradigme qui est fondamental. Historiquement, le discours politique et économique se concentrait toujours sur la géographie.
Du genre, qu'est-ce qu'on a sur notre territoire ?
Voilà. Avons-nous de l'eau ? Avons-nous du pétrole ? Avons-nous des minerais ?
La fierté de la ressource brute.
C'est ça. Mais le cas de Libreville démontre implacablement que la ressource brute seule n'a aucune valeur sociétale intrinsèque.
Elle ne sert à rien si elle n'est pas traitée.
Elle ne sert à rien sans le pont technologique et administratif qui relie cette nature aux citoyens.
Ce fameux gouffre entre le fleuve et le robinet dont on parlait. Il ne peut être comblé que par une ingénierie extrêmement rigoureuse, une planification urbaine à long terme et bien sûr un financement constant.
Et surtout par une gouvernance infaillible. L'urgence se déplace aujourd'hui de la simple géographie vers la gestion publique pure et dure.
Ce n'est plus où est l'eau, c'est comment on gère l'eau.
Le défi n'est plus de trouver la ressource, mais d'orchestrer son traitement, sa distribution et surtout la maintenance préventive de toutes ces infrastructures.
Donc agir avant que ça casse.
Voilà. Sans une administration qui est capable d'anticiper la croissance démographique et d'investir massivement avant que les tuyaux ne lâchent, la richesse hydrique ne restera qu'un mirage frustrant pour les gens.
Pour rassembler un peu les pièces de ce puzzle fascinant, l'idée maîtresse à retenir de cette analyse est assez claire. La pénurie d'eau potable qui frappe un pays aux 3500 cours d'eau n'a absolument rien d'une cruauté météorologique ou d'une fatalité naturelle.
Non, c'est purement logistique.
C'est le résultat direct d'un goulot d'étranglement humain. C'est l'histoire d'infrastructures vieillissantes, essoufflées par une explosion démographique et d'un manque d'anticipation face à l'usure impitoyable du temps sur le métal et le béton.
La nature a largement fait sa part du travail en remplissant les fleuve, mais l'infrastructure, elle, a capitulé sous le poids de la demande.
Et cette analyse, elle dépasse largement les seules frontières du Gabon.
C'est un cas d'école.
Exactement. C'est un avertissement vraiment universel sur la fragilité de nos sociétés modernes. Le simple confort d'ouvrir un robinet chez soi et de voir jaillir de l'eau propre, sous pression, ça repose sur une chaîne d'ingénierie souterraine qui est silencieuse, invisible, mais extrêmement vulnérable.
C'est un équilibre précaire.
C'est une leçon magistrale sur l'importance vitale de la maintenance. Tenir ses rouages pour acquis, même au milieu d'une abondance naturelle aussi évidente qu'au Gabon, c'est une erreur qui se paie, au final, au prix fort.
Vous savez, cette notion de tenir les choses pour acquises, ça soulève une dernière réflexion, un concept assez fascinant.
Ah oui ? Lequel ?
C'est une idée qu'on pourrait transposer de l'économie vers l'ingénierie urbaine. C'est ce qu'on appelle la malédiction des ressources, mais appliquée aux infrastructures.
C'est-à-dire ?
Eh bien, on vient de voir que cette richesse naturelle phénoménale a paradoxalement pu agir comme une sorte d'anesthésiant pour les décideurs. Le fait d'avoir une abondance d'eau bien visible partout a peut-être masqué l'urgence absolue de construire et d'entretenir un réseau de distribution ultra-performant.
C'est une forme de complaisance, finalement, qui est nourrie par la géographie. On a tellement d'eau, on n'a pas besoin de s'inquiéter.
Exactement. Et c'est poussé à se demander si l'abondance extrême d'une ressource brute au départ ne rend pas au bout du compte une société plus vulnérable aux crises structurelles.
Par opposition à qui ?
Imaginez, à l'inverse, un environnement totalement aride, un pays désertique où chaque goutte d'eau est une question de survie immédiate.
D'accord.
Dans un tel contexte, la contrainte de l'environnement force l'innovation radicale dès le premier jour. Les infrastructures sont pensées dès leur conception pour être parfaitement étanches, l'eau est recyclée et le réseau est surveillé millimètre par millimètre parce que le moindre gaspillage est mortel.
L'innovation naît de la contrainte, en fait.
C'est ça. Donc on peut se poser la question, l'excès de richesses naturelles serait-il, au fond, le pire ennemi de la prévoyance et de la résilience d'un pays ?
C'est une perspective vraiment saisissante. C'est se demander si le fait d'avoir un accès totalement illimité à l'entrepôt géant ne désincite pas tout simplement à inventer des coffres-forts intelligents.
Jusqu'au jour où la serrure se bloque complètement.
Voilà de quoi nourrir notre perception des infrastructures invisibles qui nous entourent tous les jours. Merci à tous d'avoir suivi cette plongée dans une mécanique aussi complexe que fascinante.
Merci, c'était un plaisir.
La prochaine fois qu'un robinet s'ouvre sur de l'eau claire chez vous, prenez peut-être une seconde pour contempler le gigantesque triomphe de l'ingénierie, du traitement chimique et même de la gravité. Tout ce travail caché qui se trouve derrière ce geste si simple. À très bientôt pour une nouvelle analyse.